Est-il encore besoin aujourd'hui de faire la preuve de l'intelligence collective? En tout cas, les grandes organisations ne s'y trompent pas, de Google à la CIA, elles sont de plus en plus nombreuses à se fier à ce levier très puissant. Malgré tout, on s'en doute, il ne suffit pas d'être un groupe pour être intelligent, et j'ai envie de citer un grand penseur du XXe siècle, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Vous aurez donc reconnu Michel Colucci, Coluche, voilà, je suis contente que je l'ai placé. Plus sérieusement, comment se construit cette intelligence collective? Comment est-ce qu'on arrive à faire qu'un groupe soit intelligent? Eh bien, notre intervenant en est le spécialiste, il est managing director chez Lumenogic et Hypermind. Bienvenue à Émile Servan-Schreiber.
Alors, la première cathédrale à gauche a été construite par les termites. Et elle est d'autant plus étonnante qu'aucune de ces petites cervelles d'insectes ne sont capables de concevoir l'ensemble. Parce qu'à gauche, c'est très différent. Alors, si vous prenez un neurone, tout seul, c'est l'équivalent d'une petite calculette assez modeste, qui peut faire quelques milliers d'opérations par milliseconde. C'est tellement modeste qu'il en faut 250 000 pour faire un termite. Et il faut ensuite des centaines de milliers, voire un million de termites pour faire la termitière que vous voyez à gauche. Donc, 250 fois un million, 250 millions de neurones pour faire la termitière. Un cerveau humain a besoin de 86 à 100 millions de neurones, 100 milliards pour imaginer et concevoir cette cathédrale tout seul. Donc vous avez là, dans ces deux exemples, les deux grands principes de l'intelligence collective qui peuvent se résumer ainsi. D'abord, le nombre fait la force. Vous prenez 250 000 neurones, vous fabriquez un objet qui commence à être intelligent, et si vous multipliez ça par un million, vous arrivez à construire des choses déjà assez étonnantes. Si vous prenez 100 milliards de neurones, vous arrivez à construire un cerveau humain qui, lui, tout seul, arrive à faire aussi des choses assez étonnantes. Alors, si vous faites le calcul, certains d'entre vous l'ont probablement fait, il y a à peu près deux fois plus de neurones dans la colonie de termites que dans le cerveau humain. Donc ça veut dire que, d'une part, le nombre fait la force, et d'autre part, c'est très important d'organiser cette force, d'organiser ce nombre, d'organiser cette collaboration d'une façon ou d'une autre, parce que c'est ça qui va faire la différence. Donc l'intelligence collective, c'est pas uniquement être tous ensemble et s'envoyer des messages et de façon un petit peu désorganisée, parce que vous n'obtenez que des termitières. Si vous arrivez à l'organiser un peu plus, de façon un peu plus maligne, en suivant des principes qui commencent à être aujourd'hui scientifiques, vous arrivez à obtenir des cathédrales. C'est ça l'enjeu de cette nouvelle ère dans laquelle nous rentrons, que j'appelle l'ère supercollective. Alors, maintenant, passons d'un cerveau, un cerveau humain, à plusieurs cerveaux humains, un petit groupe, une dizaine. Récemment, c'était en 2010 simplement, donc au début de cette décade, de cette décennie, au MIT et Carnegie Mellon, donc des universités extrêmement technologiques, on a découvert que le collectif, le cerveau collectif, avait un QI, et qu'on pouvait le mesurer. Vous avez tous fait un test de QI, vous avez fait passer des tests de QI, peut-être, et vous savez peut-être quel est votre QI. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'on prend quelques personnes, un petit groupe, on leur fait passer un test de QI pour le groupe, et on arrive à le mesurer, et ça arrive à être prédictif de la capacité de ce groupe à résoudre le prochain problème qu'on va lui présenter. Donc, vous imaginez qu'au-dessus, de façon un peu intangible, flotte au-dessus de cette table un cerveau collectif qui a son propre QI. Alors le problème est de savoir d'où vient le QI du groupe. Qu'est-ce qui va déterminer le QI du groupe? Alors vous avez quatre réponses possibles. La plus évidente, en moyenne des QI individuels, mettez les gens intelligents ensemble, ça donne un truc intelligent. Notre approche, c'est de prendre un super champion, hein, comme on voit ça parfois dans les équipes de foot, qui est Portugal. Il y avait un type super bon, et puis les autres, on ne savait pas que c'était, et on a vu ce que ça donne. Vous prenez aussi l'expérience, ça peut compter, hein, la sagesse. Le fait de ne pas tout fourvoyer plus facilement, donc le cas du moyen du groupe. Ou alors la proportion de femmes. Ça se trouve, quelque chose là, qui va changer la donne. Ça va trahir. Bien sûr, la proportion de femmes. Ça vient du MIT et de Carnegie Mellon. C'est moi qui invente ça. C'est pas un magazine, etc. Et les données sont là, c'est ce que vous avez besoin de voir pour le croire. Vous voyez en bas le pourcentage de femmes dans le groupe, ça va de 0% à 100%. Et sur l'ordonnée, le QI du groupe, entre bas, moyen et haut. Vous voyez que quand il y a moins de 50% de femmes, il y a tendance à avoir les QI en dessous de la moyenne pour le groupe. Plus de 50% de femmes, la tendance est à avoir des QI pour le groupe au-dessus de la moyenne. Les données sont imparables. On retrouve ce même genre de phénomène dans des analyses qui ont été faites par des gens à la Schema Business School sur le fait que les entreprises plus féminisées, c'est-à-dire qui ont un encadrement plus féminisé, par exemple, ont tendance à avoir les meilleures rentabilités opérationnelles. Là, je vous montre que ce graphique-là, il y en a d'autres qui montrent que la performance, la performance à la bourse des entreprises les plus féminisées du CAC 40 surperforme largement toutes les autres. Donc ça, c'est dans tous les domaines. Alors, la question est de savoir pourquoi. Et quand les chercheurs ont approfondi un peu l'affaire, ils se sont rendus compte que la présence de femmes encourageait plusieurs choses. C'est une question d'ego. Quand il y a plus de femmes autour de la table, plus de gens ont droit de s'exprimer. Il y a un meilleur respect du temps de parole de chacun. Il y a moins ce besoin ancestral, préhistorique, et tout à fait louable, par ailleurs, des hommes à vouloir s'imposer, et à vouloir montrer leur valeur, leur intelligence, et briller par eux-mêmes. Donc les femmes ont moins besoin de ça, et tout le monde peut s'exprimer, et du coup l'intelligence collective peut s'exprimer d'autant plus, puisqu'on peut profiter de tout le monde. Quelle que soit leur capacité à contribuer. Alors, et l'autre côté de ça, donc il y a l'expression, et l'autre côté, c'est la possibilité d'écouter. Et c'est ce qu'on mesure par ce qu'on appelle la sensibilité sociale, c'est-à-dire la capacité, en fait, muette, c'est un test muet, on vous montre les yeux, une photographie des yeux de quelqu'un ayant une émotion, et il faut deviner quelle est l'émotion de cette personne. Il se trouve que les femmes ont un petit avantage dans ce type de discernement. Plus capable de savoir ce que pense l'autre, rien qu'en regardant son visage. Et donc, quand vous mesurez ces deux choses-là, en fait, vous expliquez toute la variance qu'on découvre avec la proportion de femmes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute l'intelligence collective d'un groupe est basée sur la qualité des connexions, sur la bande passante entre les membres du groupe. Plus vous augmentez la bande passante, meilleure est la connexion, et meilleures sont les connexions, pardon, et plus le groupe va être intelligent. Alors pourquoi c'est important? C'est parce que là, on parle de standards. Quand vous mettez des standards, en fait, ce que vous faites, vous augmentez la bande passante, vous permettez aux gens, tout simplement, de communiquer mieux et de partager plus. Donc, c'est absolument pertinent à ce que fait GS1. Alors maintenant, on va passer d'un groupe de cerveaux à des populations entières, et on va repartir en vacances, parce que quand même, c'était bien. Donc, nous voilà en Océanie. Au temps où les Européens ont eu les premiers contacts avec ces populations océaniennes, ils ont fait des études, parce que s'ils arrivaient en bateau comme ça avec beaucoup de militaires, mais aussi beaucoup de scientifiques, et ils ont pris des données et ils ont regardé quelle était la proportion, la quantité d'outils qui étaient utilisés par chacune de ces populations qui habitaient toutes dans des îles un peu différentes, donc c'était une population maritime, chacune dans des petites îles. À l'époque, ce n'était pas encore découpé selon cette géographie-là, donc vous imaginez une peuplade dans chacune de ces petites îles, et on mesure la quantité d'outils qu'ils utilisent pour aller à la pêche. Donc ça peut être des choses très très simples comme un harpon, à des choses beaucoup plus compliquées, des pièges à crabes, etc. On se rend compte, quand on se trompe pas, voilà, on se rend compte que le nombre d'outils, vous avez une échelle logarithmique sur le nombre d'outils, le nombre d'outils augmente de façon assez précise, réglée, avec la taille de la population. Donc, plus vous avez de population sur une île, plus il y a de gens sur l'île, et plus ils vont utiliser d'outils différents. C'est-à-dire, en gros, plus leur culture est avancée et complexe. Leur culture technologique, plus ils ont été innovants. Et c'est une question, évidemment, de densité. Vous voyez, juste cette petite île qui ressemble un petit peu. Et donc, en gros, vous avez la population qui augmente, il y a de plus en plus de gens sur le même endroit, et cette densité fait que ça va augmenter la capacité, le progrès dans cette culture. Si on regarde dans l'histoire de l'humanité, on retrouve le même phénomène. Il y a en gros trois grandes phases dans l'histoire de l'humanité, trois grandes ruptures. La première, c'est quand les humains sont apparus. Se sont débarrassés de tous les autres humains qui étaient là. C'est une grande chose du Néandertal. Ça a duré environ 2 millions d'années de présence d'humains qui vivent comme des chasseurs, chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, etc. Des petites bandes nomades, ils sont en gros entre 20 et 50, un peu comme des tribus primitives que vous retrouvez encore aujourd'hui dans les forêts d'Amazonie. Et ça, ça dure très très longtemps, on est très très peu, donc très très peu de densité, et le PIB global, on estime, à cette époque du monde, pendant 2000 ans, double à peu près tous les 250 000 ans. Donc le progrès n'est pas très rapide. Ensuite, il y a une rupture. Au bout d'une certaine quantité de progrès, quelqu'un invente l'agriculture. On commence à se rendre compte qu'on peut faire pousser des choses. Du coup, on se regroupe, au lieu d'être des petites bandes nomades, on se regroupe dans des villages. Et du coup, ça permet, donc on augmente la densité, ça permet à certains de se spécialiser, à d'autres de devenir scientifiques, etc. Donc ça permet un progrès technologique et scientifique et culturel énorme, qui fait que maintenant le PIB double tous les 1000 ans. Donc une accélération formidable du progrès. C'est pas uniquement exponentiel. Ensuite, quelqu'un, à force d'innover, à force de cette culture scientifique, va inventer la machine à vapeur qui va démarrer la révolution industrielle. Et à nouveau, on augmente la densité, parce que maintenant on se regroupe dans des villes, et on passe, maintenant la plupart d'entre nous vivent dans des villes de 100 000, les Nancy, c'est genre 300 000 personnes, Paris c'est quelques, je sais pas, 5-6 millions, Grand Paris c'est peut-être 10 millions, donc et en Chine vous avez des villes encore plus grosses que ça, donc une densité formidable qui accélère formidablement le progrès, et maintenant le PIB double tous les 15 ans. Hein, si vous prenez l'ensemble des 100 dernières années, par exemple, le PIB a doublé en moyenne tous les 15 ans. Donc une accélération formidable du développement de la richesse, de la culture, des technologies, etc. Si on regarde ça à l'échelle de 2 millénaires, vous voyez la période d'agriculture où le PIB, en fait c'est exponentiel, mais comme l'autre l'écrase, elle est toute plate, la courbe bleue est déjà une exponentielle. Vous voyez une formidable accélération qui est bien pire que l'exponentielle classique. Là, on voit, si on met l'échelle logarithmique à gauche, les exponentielles deviennent des droites. Donc vous voyez là, l'exponentielle de croissance de la période où l'humanité en était à l'agriculture, et puis une rupture complètement dingue au moment où on est passé à la révolution industrielle. Où là, on change, c'est une exponentielle dans l'exponentielle, c'est une accélération dans l'accélération. On change complètement de niveau, et évidemment que ça nous emmène à une ère qu'on pourrait appeler l'ère supercollective maintenant. On rentre dans le numérique, toutes les technologies dans les 20 dernières années, l'email, le web, le téléphone portable, l'iPhone, les messageries, les réseaux sociaux, etc., la traduction automatique, tout ça fait qu'on a rapproché les cerveaux. On a densifié le réseau des intelligences connectées. Et donc, forcément, comme on l'a vu, quand on densifie les choses d'une façon brutale comme ça, on passe dans des villages, ensuite on passe dans des villes, les métropoles maintenant ont passé dans des réseaux monstrueux qui couvrent l'ensemble de la planète, où n'importe qui peut être connecté à n'importe qui d'autre, à tout moment, de façon instantanée et de plusieurs façons. Aujourd'hui, on ne sait même plus comme s'il faut envoyer un email, envoyer un texte, envoyer une lettre, téléphoner. On a tellement de moyens de communiquer les uns avec les autres que ça devient complètement étonnant. Et donc, la bande passante entre nous est devenue énorme. Donc ça, forcément, ça crée une rupture formidable. Alors, l'intelligence collective, ça nous a aidé à arriver jusqu'ici. Mais aujourd'hui, évidemment, il a fallu l'organiser. L'organiser avec des hiérarchies, des structures, des institutions, etc. Dans les entreprises, on l'a organisé d'une certaine façon aussi. Et aujourd'hui, il va falloir la super-organiser. On a bien vu que les foules ne sont pas intelligentes spontanément. On a évidemment tous des exemples de foules qui ont salué Hitler bêtement, je pourrais dire, de foules qui se comportent de façon stupide plutôt que de foules qui se comportent de façon intelligente. Et donc, il y a des règles, il y a des recettes, il va falloir les utiliser. Alors, quelles sont ces règles? Pour aller très vite, le résumé de plusieurs décennies de recherche, on est arrivé là. En gros, il faut 4 ingrédients. Il faut beaucoup de diversité de points de vue. C'est-à-dire beaucoup de modèles mentaux différents. Alors la diversité, ce n'est pas uniquement la race, ce n'est pas uniquement ethnique. Bien que la diversité ethnique joue aussi beaucoup. Parce que quand on est confronté à quelqu'un qui a l'air différent, eh bien, ça nous incite à penser différemment aussi. Donc c'est très très important, ça entraîne la diversité. Donc, beaucoup de diversité d'opinion, beaucoup d'indépendance d'esprit, c'est-à-dire que si vous mettez beaucoup de gens dans une structure qui encourage le conformisme, par exemple, on est tous dans une salle de réunion, et puis il y a le patron au bout de la table qui dit, et vous, monsieur Machin, vous en pensez quoi? Et tous les autres collaborateurs de monsieur Machin regardent pour voir s'il ne va pas dire une bêtise, ça n'encourage pas l'esprit d'indépendance ni la contribution utile. Donc il va falloir développer ces façons d'encourager les gens à exprimer leur point de vue original. Récolter beaucoup d'informations évidemment sur le terrain, et puis, très important, agréger tout ça de façon objective. Il arrive souvent, vous avez entendu parler des comités, il y a un rapporteur. Et le rapporteur du comité, c'est en gros lui qui décide ce qui va aller dans le rapport. Et ça, c'est terrible. Parce qu'évidemment, sa subjectivité à lui, son point de vue, ce qu'il a été capable de comprendre de ce que les autres ont dit, va énormément influer sur la qualité du résultat du livrable. Donc il faut des méthodes, a priori algorithmiques, le plus objectives possible pour agréger l'ensemble des informations qui ont été produites. Si vous faites tout ça, la recette est assez simple, comme ça. Si vous faites tout ça, vous obtenez une intelligence collective. Si vous ne faites pas, c'est la catastrophe, vous obtenez le conformisme, la pensée unique, la stupidité, etc. Alors vous remarquez aussi ici qu'un mot qui manque, c'est expertise. Parce qu'en fait, tout ça s'applique autant à des novices qu'à des experts. Et d'ailleurs, on peut compenser l'expertise par la diversité. Si vous prenez beaucoup de gens qui ne sont pas très experts, vous arrivez à fabriquer l'équivalent d'un expert. Aujourd'hui, avec les plateformes numériques, on sait faire ça. Donc, voici un exemple que j'aime beaucoup, qui est l'exemple d'avocats ou d'étudiants en droit. Donc, un avocat avec 20 ans d'expérience ou des étudiants en droit qui sont encore à l'école, qui essayent d'estimer la valeur qui essaie d'estimer le verdict d'un jury, la quantité de dollars qui ont été alloués aux plaignants, par le jury. Et donc là, ce que je montre, c'est l'erreur et comment l'erreur évolue avec le nombre d'étudiants qu'on fait intervenir. Vous voyez qu'avec 14 étudiants, on arrive à faire aussi bien que le jugement moyen d'un avocat très expérimenté qui fait ça depuis 20 ans. Et si vous prenez 15, 16, 17, etc., 45 étudiants, vous commencez à faire beaucoup mieux que l'avocat tout seul. Donc l'expert peut être compensé, alors ça dépend ensuite si l'expert coûte très cher, si les étudiants coûtent très cher, etc. Enfin bon, là il y a une économie à calculer, et souvent les quelques moins experts en masse coûtent beaucoup moins cher que les quelques experts. Mais si vous prenez quelques experts, si le type qui avait une erreur de 0,4 décide, au lieu de donner son estimation directement, de téléphoner à ses collègues pour lui demander son estimation et qu'il prend la moyenne des deux, à ce moment-là, il va déjà diminuer son erreur de 25%. S'ils sont à trois collègues à prendre la moyenne de leurs estimations, à ce moment-là, ils vont encore diminuer leur erreur, etc. Donc vous voyez que la même courbe d'augmentation de l'intelligence collective est utilisée pour les experts et pour les non-experts. Et maintenant, pour faire deux experts, il faut 42 étudiants, 43 étudiants. On peut continuer à l'infini cette comparaison. Elle est différente en termes de chiffres dans chaque domaine, mais on la retrouve partout. On peut toujours remplacer une expertise très pointue par beaucoup d'expertises beaucoup plus diffuses et obtenir des résultats souvent meilleurs que ce qu'on a avec une expertise unique. Alors, l'intelligence collective, c'est évidemment de l'intelligence. À quoi ça sert? Ça sert à deux choses essentiellement. Pourquoi est-ce qu'on a un cerveau? Ça sert à prévoir. Imaginez que vous êtes tout seul dans la savane, en temps préhistorique, vous devez prévoir s'il vaut mieux aller chercher de la nourriture à droite ou à gauche. Et il y a une seule bonne réponse, mais si vous ouvrez la mauvaise porte, il y a un lion derrière, sinon vous arrivez à trouver la nourriture. Donc il faut faire des choix, et ces choix sont faits en termes des prévisions que vous êtes capable de faire pour évoluer dans votre environnement. C'est la même chose en business ou dans la savane. Et puis, comme on fait des mauvais choix, qu'on se retrouve dans des mauvais espaces souvent, et bien, il faut trouver des idées pour sortir de là et prévoir quelle est la meilleure idée pour nous emmener, nous faire sortir de l'impasse dans laquelle on s'est trouvé. Quand on regarde précisément ceux qui sont considérés comme étant les plus grands innovateurs dans leur domaine, jugés par leurs pairs, on se rend compte, ça c'est les études de Booz Allen à l'époque, maintenant je crois que c'est PricewaterhouseCoopers qui fait ça tous les ans, on se rend compte que les entreprises qui sont jugées les plus innovantes par leurs pairs ne sont pas celles qui dépensent le plus d'argent en R&D. Ce sont au contraire, d'après les études de professeurs à Harvard, ce sont celles qui impliquent le plus de leurs collaborateurs dans l'effort d'idéation. Je passe rapidement sur l'innovation parce que je sais que Martin va en parler plus tard. Et je passe à l'autre aspect qui est un peu moins classique, un peu moins développé, qui est la prévision. La prévision, c'est un peu le parent pauvre, que ce soit en politique, en business, et dans la vie de tous les jours, même individuellement. C'est quand même une activité assez difficile. D'aucuns croient que c'est une activité impossible. Je me souviendrai de Michel Sapin, qui était passé chez Bourdin il y a quelques années. Bourdin lui reprochait de ne pas faire que les prévisions de Bercy étaient toujours fausses, et toujours systématiquement fausses dans un sens plutôt que dans un autre. Et Michel Sapin répondait, vous savez, la prévision, c'est quand même impossible. D'ailleurs, présentez-moi quelqu'un qui puisse faire une prévision, je serais ravi de rencontrer. Chose comme ça. Donc la prévision est très difficile, parce que effectivement, personne individuellement n'est capable de faire systématiquement des bonnes prévisions. En revanche, on s'est rendu compte depuis une vingtaine d'années que tout le monde, en même temps, était capable de faire des très bonnes prévisions quand on agrège les prévisions de tous. Et c'est le sens de cette citation de l'économiste, ça date d'il y a une dizaine d'années déjà maintenant, qui est quand on prend la multitude et qu'on leur demande de faire des pronostics et qu'on prend, par exemple, à travers des plateformes de paris, ce qu'on appelle les marchés prédictifs, hein, ce sont des plateformes de paris qui ressemblent à des stock markets. On demande de faire des prévisions, on obtient des probabilités, et bien il n'y a pas de meilleure probabilité que celle qu'on obtient à travers cette multitude de parieurs. Quand on applique ça en business, dans des entreprises aussi différentes que pharmaceutiques, Eli Lilly, Campbell's, avec la nourriture, les boissons, les soupes, etc., Ford, Google, ArcelorMittal, Intel, etc., on se rend compte que systématiquement, quand on implique beaucoup de gens dans l'effort de prévision, chiffre de vente, nombre de produits qu'on va vendre, etc., que ce soit par trimestre ou par an, dès qu'on parle de nouveaux produits, de nouveaux marchés, de choses où on n'a pas les données pour tirer des droites dans des feuilles Excel, pour faire des prévisions qui sont juste des projections de ce qu'on sait déjà, dès qu'on est dans un endroit où il n'y a pas de données, à ce moment-là, la multitude des prévisionnistes ensemble, la multitude agrégée des parieurs, obtient des résultats qui sont 3 fois sur 4 meilleurs que ce qu'on obtenait avant, par des méthodes classiques, et jusqu'à 21% plus précises en moyenne. Donc ce sont des... Ce n'est pas encore la boule de cristal qui va faire que vous avez raison à chaque fois, mais c'est une amélioration significative de ce qu'on peut faire déjà avec les méthodes classiques. Alors pourquoi ? Parce qu'en général, les big data, c'est très très bien, mais il faut qu'il y ait des data. Vous connaissez l'histoire de ce type qui est dans un parking en pleine nuit et qui est en train de chercher avec une lampe électrique en dessous du lampadaire. Pardon, il est en train de regarder en dessous du lampadaire dans le parking. Et il y a un flic qui vient, qui lui dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Il dit « Je cherche mes clés. » Vous pensez qu'elles sont là, vos clés ? Je ne sais pas, mais c'est là où il y a la lumière. Mais les big data, c'est un peu ça. On a des data, on se dit qu'il doit y avoir quelque chose dedans, et si ça se trouve, on n'a que 10% des data qui peuvent être utiles pour trouver ce qu'on cherche. Et le reste, c'est encore de l'obscurité. Et si on s'attache uniquement à ces quelques data dont on dispose, même si elles sont big, ce qu'on veut, elles ne sont peut-être pas suffisamment big pour pouvoir trouver ce qu'on veut. Et du coup, ça peut nous fourvoyer, nous emmener sous le lampadaire au lieu d'un endroit où il y a les clés. Il y a plein de situations dans les affaires humaines où les data ne sont pas encore là. Ou alors elles sont suffisamment déstructurées, floues, indisponibles pour pouvoir être rentrées dans les machines. Et dans ce cas-là, l'intelligence collective a son rôle à jouer plutôt que les machines. Alors on a fait ça, je vais finir là-dessus, récemment avec les agences de renseignement américaines, le CIA, mais il y en a peut-être une dizaine d'autres aussi. Il y a une agence spécialisée de recherche, vous connaissez peut-être DARPA, eux ils ont le IARPA, qui est l'équivalent de DARPA, mais uniquement pour les agences de renseignement. Donc on a des recherches très poussées, des projets sur 4-5 ans, sur des choses très compliquées, qui essayent de pousser les capacités technologiques des agences de renseignement pour faire des meilleures prévisions, entre autres. Et donc la mission à laquelle on était attaché, la mission ACE, c'était d'améliorer l'exactitude des prévisions géopolitiques des agences en utilisant la multitude. Est-ce que ça marche ? Donc ils nous ont fait durer 4 ans, ils ont dépensé beaucoup d'argent, on a recruté 10 000 participants à travers le New York Times, des amateurs qui s'intéressent uniquement à ce qui se passe autour du monde. Imaginez pour des lecteurs du monde, vous avez des gens qui s'intéressent à ce qui se passe dans l'environnement, mais pas plus que ça, ils n'ont pas accès à autre chose que Google pour s'en sortir. Et vous leur proposez de répondre à des centaines de questions géopolitiques assez compliquées, assez poussées, assez détaillées, pas forcément le genre de choses que vous trouvez dans les journaux. Eh bien, on se rend compte que ces gens-là, quand on les fait parier les uns contre les autres, on obtient des prévisions. Là, vous avez en bas des prévisions, la probabilité qui est extraite de la prévision collective. Donc, ça va de 0% de chance que ça arrive à 100% de chance que quelque chose arrive. Et vous avez sur l'abscisse, sur l'ordonnée, pardon, le pourcentage des événements prévus qui se réalisent effectivement. Et vous avez une adéquation pratiquement parfaite entre la probabilité prévue et la fréquence de réalisation des événements géopolitiques. Et vous avez d'autant plus de points de prévision qui sont faites aux extrêmes, c'est-à-dire qui sont utiles. Si les gens vous prévoient toujours 50% que quelque chose arrive, vous ne savez pas très bien quoi faire avec ça, mais si vous prévoyez à chaque fois 90% ou 10%, à ce moment-là, vous prenez un risque, toujours, mais vous le prenez de façon un petit peu mieux calculée. Et si on prend que les meilleurs, parce qu'évidemment, au bout d'un an, on sait qui ont été les très très bons parieurs et ceux qui ont été un peu moins bons, si vous prenez que les meilleurs, vous arrivez à obtenir des performances qui sont 30% meilleures que les meilleurs analystes de la CIA, avec accès à toute information confidentielle et tout le renseignement humain, tout ce que vous voulez, alors que la foule, elle, n'a que Google, ce qui est déjà pas mal. Google, par ailleurs, on prend pour une intelligence artificielle, mais c'est une intelligence purement collective. Donc Google a été construite avec un algorithme ultra simple. Tout ce qu'il fait, c'est suivre les liens qui ont été décidé, construit par des webmasters humains pour lier un site à un autre en disant celui-là, j'aime bien ce site parce qu'il est pertinent à ce que je fais, etc. Donc je tisse un lien et Google ne fait que suivre ça. Donc Google est déjà une intelligence collective. Donc l'intelligence super collective, c'est-à-dire qu'on y est. Il y a déjà deux pyramides de cette nouvelle civilisation qui ont été construites, qui sont Google, le moteur de recherche, et Wikipédia, l'encyclopédie collaborative. Moi, j'utilise ça 10 fois par jour au moins, chacune. D'ailleurs, le livre a été coécrit, on pourrait dire, par Wikipédia et Google. Et la question, c'est de savoir comment vous allez vous super-organiser dans vos entreprises pour devenir super intelligent.
Merci beaucoup. Proportion de femmes, ouais, ça va, il y en a pas mal. Ouais, forcément. On attend pour une ou deux questions très rapides. Voilà. Alors, y a-t-il. Martin Duval.
Merci, Émile. Selon toi, tu accompagnes les entreprises, il y a sans doute plusieurs freins qui font que ce type de dispositif ou de dynamique ne sont pas mis en œuvre. S'il n'y avait en retenir qu'un, le frein principal, quel est-il ? Merci.
Alors, on ne trouve pas de frein pour ce qui est l'innovation. L'innovation, c'est en fait assez naturel de demander à tout le monde quelles sont leurs bonnes idées. Donc, on n'a jamais trouvé de frein en termes de mission d'innovation pour installer des plateformes géantes avec des milliers de gens. En revanche, la prévision, c'est extrêmement sensible. Il y a des questions de confidentialité. Les prévisions de vente, je veux dire, le secret, c'est que c'est assez facile de faire mieux. Parce que les vendeurs ont tendance à mentir pour minimiser ce qu'on attend d'eux et du coup avoir des plus gros bonus. Le type qui dirige l'équipe de vente, lui, a tendance à faire des prévisions qui sont largement trop optimistes, histoire de motiver les vendeurs. Donc, tout ça, en fait, c'est que des bobards dans tous les sens. Donc c'est assez facile. Quand on installe une méthode plus objective basée sur le pari, où là, le seul intérêt, c'est d'essayer d'avoir raison, et pas d'essayer de faire autre chose, c'est assez facile de faire beaucoup mieux. Alors, pourquoi est-ce que, malgré ça, c'est moins utilisé que ça ne devrait ? Parce que, vous avez tous eu cette expérience, c'est assez désagréable d'avoir quelqu'un qui vous donne des conseils. En particulier si vous êtes un homme. Vous avez remarqué, les hommes au volant vont demander moins souvent des renseignements qu'une femme. Quand elle est perdue, elle va plus facilement s'arrêter de demander à quelqu'un. Un homme, lui, essaiera de trouver, et puis vraiment, en désespoir de cause, il finira par demander, de préférence à son téléphone d'abord. Donc c'est la même chose dans nos vies personnelles, au niveau d'une entreprise. Quand quelqu'un vous dit ce qui va arriver, quelque part c'est désagréable. Et pourtant, si on est capable d'accepter ça, si on est capable de se sentir pas dépossédé par cette nouvelle information, mais enrichi par cette nouvelle information, on arrive à garder son rôle de décideur tout en étant mieux informé. Mais c'est difficile. Je pense que l'ère super collective, le premier frein, c'est les problèmes d'ego. Et ça nécessite un changement culturel conséquent.
Y a-t-il une autre question ? Madame, oui. Je suis très intéressée par les super prévisionnistes. Est-ce qu'on a une typologie de cette population ? À quoi elle ressemble, cette population de super prévisionnistes qui arrive à être 30% meilleure que les CIA ?
Ça ressemble à vous. Sérieusement. Il y a quelques années, il y avait CBS, la chaîne américaine, qui avait fait une émission sur les super prévisions, les sites de prévision, comme Hyperman, et à laquelle je vous invite tous d'ailleurs à venir tester vos qualités de prévisionniste politique, géopolitique, économique, etc. Le numéro un du site était en fait une femme qui était esthéticienne à temps partiel à Brooklyn, comme de 40 ans. qui se trouvait être une excellente prévisionniste pour tout ce qui concernait la politique et le sport. Aujourd'hui, on se rend compte que ce sont des gens, évidemment, qui ont un peu de temps à consacrer à ça. Parfois, ils sont au bureau. Mais ce sont des gens normaux. Alors, ils ont, en revanche, une qualité. Ils ont la bosse de la prévision, comme d'autres ont la bosse des maths. J'imagine, il y en a pas mal ici qui ont fait des études un peu d'ingénieurs. Ils ont la bosse des maths. Ces gens-là ont la bosse de la prévision. C'est-à-dire qu'on a identifié que ils avaient cette capacité très rare, le top 2% de la population, à être extrêmement ouvert, ce qu'on appelle, ils ont le active open-minded thinking, c'est-à-dire qu'ils ont l'esprit ouvert activement ouvert, ils ne sont pas simplement une question d'ouvrir les chakras et de recevoir ce que les gens vous envoient, ils vont activement, avant de prendre une décision et de se faire une opinion, chercher des gens qui ne vont pas être d'accord avec eux pour entendre le point de vue opposé, le point de vue différent, pour pouvoir l'intégrer. Et ça, c'est extrêmement difficile à faire. Il n'y a que le top 2% de la population qui y arrive. On peut s'entraîner à le faire. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Mais si vous êtes capable de le faire, ça va considérablement améliorer votre capacité à être plus intelligent que les autres.
Alors, une toute dernière question. Alors, moi, j'en ai une. Vous avez parlé du fait que des structures pyramidales, forcément, c'est assez intuitif, ça n'incite pas à donner son avis facilement. Du coup, est-ce que vous avez un regard sur ces organisations dont on parle beaucoup régulièrement, type entreprise libérée, où on prône la codécision ?
Non, j'y crois pas du tout. J'ai pas dit que l'entreprise pyramidale était une mauvaise chose. Une mauvaise chose, c'est pas la hiérarchie elle-même. On sait que tout système complexe est forcément hiérarchique. Il n'y a pas de système complexe qui soit affectif. Ça n'existe pas, si on arrive à faire des fermetières, et encore. Donc la complexité implique la hiérarchie. En revanche, ce qui ne fonctionne pas très bien aujourd'hui et ce qu'on encourage à faire fonctionner mieux, c'est le bottom-up dans la hiérarchie. Chacun reste à son poste dans une hiérarchie, chacun a ses spécialités, ses tâches, mais on prend en compte le fait qu'ils ont quelque chose à dire plutôt que simplement recevoir des ordres. Donc c'est ce dialogue top-down, bottom-up qui est à organiser. C'est pas du tout une entreprise complètement écrabouillée.
Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir très chaleureusement.